Même. Au bout du fil, on a Valérie Courchaine, chercheuse au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Madame Courchaine, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Excellent. Madame Courchaine, permettez-vous que je vous appelle Valérie?
Oui, c'est parfait.
Ah, parfait, excellent. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Tylenol est vraiment relié à l'autisme comme Donald Trump et Robert Kennedy Jr. tentent de le faire passer aux États-Unis?
Non, absolument pas. La science ne va pas du tout dans ce sens-là. Les données, en fait, montrent très clairement qu'il n'y a pas de lien entre le Tylenol pendant la grossesse et l'autisme. Donc, c'est vraiment une mauvaise interprétation, en fait, de certaines données. Les auteurs eux-mêmes là, de ces études-là mentionnent qu'il n'y a pas de lien causal entre l'autisme et le Tylenol.
Oui, parce que c'est ma question. Sur quelle étude on se base du côté de Trump et Robert Kennedy Jr.? Est-ce qu'on se base sur des études sérieuses ou des études qui émanent plus là, du courant complotiste?
Oui, bien, c'est dur à dire. Il y a vraiment une vaste littérature là-dessus. Puis, clairement, ils n'ont pas pris les études les plus sérieuses, en tout cas, qui ne démontrent pas de lien. Il y a certaines études là qui montrent des corrélations. Corrélation, ça ne veut pas dire cause. Puis, ce que ça veut, en fait, quand on contrôle pour tous les facteurs qu'on devrait contrôler pour faire de la bonne science, on se rend compte qu'il n'y en a plus de lien. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il n'y a pas de lien qui existe. Puis les études qui en trouvent un, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé pour certaines variables comme les facteurs génétiques, qui, eux, on le sait, sont impliqués dans le tout.
Comment est-ce que vous expliquez le président d'une nation comme les États-Unis qui prend la parole par rapport à un produit de type Tylenol et qui s'avance sur un genre de possible... recul du Tylenol quant à le fait qu'une femme enceinte en prendrait?
Oui, bien, c'est en tout cas hors norme. J'allais dire pratiquement du non jamais vu. Premièrement, bon, c'est pas nécessairement son rôle du tout. Puis ça a des impacts majeurs pour la santé publique quand des gens avec autant de notoriété disent des choses comme ça alors qu'ils savent pas nécessairement lire la science, ils savent pas la vulgariser, ils savent pas comprendre toutes les nuances. Kennedy, lui non plus, ne semble pas toujours bien comprendre les études. Donc, soit il les comprend puis volontairement, il fait fi de certaines données, soit il les comprend pas vraiment puis il rapporte uniquement là, ce qui va avec son hypothèse, qui est l'inverse de ce qu'on fait en recherche finalement.
On discute avec Valérie Courchaine, qui est chercheuse au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. On parle de cette corrélation mensongère entre le Tylenol et l'autisme. Valérie, justement, pour les besoins de nos auditeurs, répète-nous scientifiquement comment l'autisme se développe chez nos enfants.
Ouais, ben en fait, ce qu'on sait, c'est que l'autisme, c'est génétique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des prédispositions, ça prend tout. C'est des prédispositions complexes. Là. C'est pas juste un gène qui cause l'autisme. Dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait qu'on ne sait pas exactement encore. On comprend pas suffisamment la génétique et l'épigénétique, donc l'interaction là, des gènes avec l'environnement, puis tout ça pour comprendre exactement ce qui se passe. La plupart des anomalies génétiques qu'on a identifiées jusqu'à maintenant, on les retrouve chez, on va dire, au maximum 1% de la population autiste, ce qui veut dire que c'est vraiment pas, on est très, très loin de dire voici, il y a une cause identifiée. Donc, on trouve des petits gènes comme ça, des petites anomalies, puis on les lie à l'autisme. Donc, on voit qu'il y en a un peu plus chez les personnes autistes que dans la population générale, mais plein de gens de la population générale ont ces anomalies-là aussi, tu sais. Donc, on sait que c'est génétique, on sait que c'est complexe. Donc, c'est pas aussi simple que, par exemple, la trisomie où on voit, il y a un gène, on l'identifie, puis on sait que ça va être ça, le phénotype. Donc, mais par contre, on sait très bien là, que, en tout cas, toute la science qui s'est penchée sur les facteurs environnementaux, tu sais, il y en a eu sur les métaux lourds, sur toutes sortes d'autres facteurs comme ça, il n'y a rien de convaincant là, dans la science en ce moment. Donc, on aimerait bien trouver une cause comme ça, simple, dans l'environnement et contrôlable, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien là, qui va dans ce sens-là.
Exactement. Puis c'est clair que le fait qu'on le diagnostique davantage vient augmenter là, justement les enfants et les troubles de l'autisme chez l'enfance. Valérie, est-ce qu'on vit une période dangereuse en Amérique du Nord avec Robert Kennedy Jr. à la tête de la santé aux États-Unis qui dit « Hey, gardons ça, en Floride, on n'a plus besoin de vacciner pour la rougeole, le vaccin pour la COVID, c'est de la scrap. » Est-ce que c'est dangereux pour des problèmes de santé qui pourraient s'en venir ici au Canada?
Bien, moi, je pense que tout à fait. Je veux dire, ça va avoir des impacts de santé publique majeurs, puis bon, on est juste à côté. Il y a déjà ici, à cause des controverses autour des vaccins, des parents qui ne font pas vacciner leurs enfants. Puis dans les garderies, en ce moment, il y en a des éclosions de rougeole à certains endroits, alors que c'est une maladie éradiquée. Tu sais. Donc, sur le plan de la science, il n'y a absolument pas de débat là, à y avoir sur les vaccins, par exemple. Tout le monde s'entend, il n'y a pas de controverses autour de ça. Donc, ça ne fait pas de sens que les gens à la tête des organismes de santé, c'est un peu comme si la personne à la tête de Santé Canada disait des choses comme ça, dangereuses. Il y a des choses sur le lait non pasteurisé, sur toutes sortes de sujets. Puis c'est vraiment dangereux pour les gens qui ne sont pas nécessairement toujours en mesure d'aller lire les études scientifiques, de savoir si c'est vrai ou non. Donc, ils vont fier à la personne qui a l'autorité puis qui est supposée de savoir ce qui est bon puis nous dire, OK, voici l'état de la science. Fait quand les gens qui sont dans ces positions-là ne suivent pas la science puis les recommandations qui sont vraiment très, très, très mainstream, là, si on veut, c'est dangereux, effectivement. Moi, je pense que ça va avoir des impacts majeurs sur la santé publique dans les prochaines années.
Je me demande, tu sais, parce que je trouve ça valide, là, je trouve ça valable, les gens qui disent « Ah, mais il y a tellement d'études, des fois, il y en a une qui dit une chose, l'autre dit une autre chose, puis là, on ne sait pas trop sur quoi se fier. » On a-tu un truc pour ça?
Oui, puis c'est ça, habituellement, notre truc, c'est, tu sais, par exemple, l'INSPQ, les organismes comme ça, les agences Santé Canada et tout, ont le mandat, ils ont des scientifiques qui travaillent pour eux, qui font l'état de la science, qui vont aller voir, OK, c'est quoi les études, puis lesquelles sont de qualité, puis on peut se fier, lesquelles sont pas de qualité, puis on fait, ce qu'on appelle soit des revues systématiques de cette littérature-là ou des méta-analyses. Donc, on va aller donner un poids plus grand aux études qui ont une meilleure qualité, tu sais, sur le plan méthodologique et tout ça, donc que leurs conclusions sont plus fiables. Puis, on met tout ça ensemble, puis on émet des lignes directrices, donc, habituellement, puis au Canada, heureusement, c'est encore le cas, là. On peut se fier à ce que, par exemple, des institutions comme le CHU Sainte-Justine va nous dire, tu sais, des gens qui ont vraiment des gens qui sont mandatés pour nous vulgariser ça, finalement, parce qu'on peut pas, tu sais, même en tant que scientifique, moi, je suis dans le domaine de l'autisme, quand je veux savoir quoi faire par rapport à certaines choses à mes enfants puis qui ne touchent pas à ça, mais je vais aller voir qu'est-ce qui se dit sur naître et grandir, les sources fiables, des CHU Sainte-Justine, ce type de choses-là, ou l'Agence de santé publique ou Santé Canada, tu sais.
Valérie Courchesne est chercheuse au CIUS du Nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir parlé d'autisme et de Tylenol et au plaisir de se reparler prochainement.
Merci, bonne journée.
Salut Valérie, merci beaucoup. Alors, c'était Valérie Courchesne. Très questionnant ce qui se passe à l'heure actuelle. On a congédié énormément de scientifiques aux États-Unis. Donc, de voir que la science, justement, éprouvée, ne prend plus le dessus sur les décisions politiques, c'est vraiment questionnant.
Puis là, j'ai comme fait un genre de recherche tantôt sur ChatGPT rapidement, parce que j'ai eu un flash. Puis là, je m'en vais là, mais on va apprendre avec des pincettes. Là. ChatGPT, quand j'ai posé la question... Les usines de Tylenol sont où?
Mm-hmm.
Bon, on dit que l'usine américaine de Tylenol a fermé il y a un certain nombre d'années. La seule usine en Amérique était à Guelph, en Ontario.
OK.
Là, y a-t-il un contexte économique là-dedans? Ouais. Je mets toutes les hypothèses à la
tête. Non, mais c'est bien que tu nous mentionnes le tout parce que oui, en effet, ça pourrait faire partie.
On serait pas nécessairement surpris d'une stratégie du type.
On serait pas surpris avec
On serait déçu, par exemple.
On serait très déçu, mais on serait pas surpris avec la politique protectionniste de Donald Trump en matière